pour prolonger la question de handicapé, j'ai rencontré cette semaine le président de l'AFPA qui va intervenir dans une séance prochainement. C'était le plus gros organisme de formation des handicapés. Et c'est des sommes très importantes. C'est l'État qui payait les formations des handicapés faites par l'AFPA. Et puis quelqu'un au budget a eu l'idée géniale de dire « Bon, je ne vais plus vous financer, vous allez vous faire financer par l'AGFIP et comme ça, tout ira très bien. » Ben finalement, l'AGFIP peut dire « Bon non, on ne finance pas. » Ils n'ont pas envie de financer. Le résultat, c'est que la formation pour handicapés, il n'y en a plus. Parce qu'il n'y a plus d'argent, que l'État ne verse plus, que l'AGFIP ne veut pas verser. Puis d'ailleurs, l'AGFIP se fait ponctionner par l'État. Voilà, en gros, un marché de dupes.
Oui, je suis Bernard Yon et j'anime une association qui intervient dans le domaine de l'amélioration de l'habitat. Et en fait, elle intervient beaucoup à la demande des collectivités locales, enfin plus précisément du Conseil général de Montpellier, pour essayer de voir comment réagir par rapport à la précarité énergétique. Donc, on a commencé à pas mal travailler sur les besoins. C'était plusieurs dizaines de ménages qui étaient concernés. Et on s'est aperçu assez vite que pour pouvoir répondre à leurs questions, il fallait trouver des sommes relativement coquettes qui sont de l'ordre de 10 à 15 000 euros. Alors évidemment, on s'est tourné vers l'ANA puisque simultanément, le gouvernement avait doté l'ANA de pas mal de moyens et que ces moyens avaient été basculés sur l'ANA pour être distribués. Néanmoins, il y a des cas de figure où au niveau des ménages concernés, il fallait plutôt monter sur 15 000 euros que sur 10 000 euros. Donc à ce moment-là, bon, on est allé voir le Crédit Coopératif qui était par ailleurs notre banque et on a imaginé, ou plutôt vous avez imaginé, parce que nous ne sommes pas des financiers, vous avez imaginé effectivement un système de microcrédit avec un suivi des ménages que nous assurions par nous-mêmes et qui était à la fois technique et qui était en même temps social avec notamment les allocations familiales. Voilà. Et alors à ce moment-là, le système que vous avez proposé est un système dans lequel vous preniez la moitié du risque et sur lequel l'autre moitié, vous vous reposiez sur la Caisse des dépôts. Donc la Caisse des dépôts travaille pas mal sur cette dimension et elle en est arrivée à dire, suite à votre demande, il faut avoir une contre-garantie de l'État pour la moitié, vous-même acceptant d'en prendre l'autre moitié. Bon, néanmoins, le risque n'est pas très fort parce que, ça c'est votre point de vue, je le sens bien, mais quand on suit de très près les ménages en question, on n'a pas beaucoup, enfin on peut arriver à des taux de remboursement qui sont plutôt de 90%. Voilà, il y a peu d'accidents de la vie. Donc pour l'instant, notre demande est entre les mains des ministères parce que c'est eux qui apportent sur leur budget cette garantie. Mais seulement, comme le risque est faible, ils sont amenés à bloquer une somme de l'État correspondant à la moitié de leur intervention. Et voilà, c'était la question. Vous avez l'air de la connaître un petit peu parce que c'est un peu un essai un peu nouveau dans le domaine du logement et de la précarité.
On est exactement dans ce concept, quel que soit des titres, enfin bon, dans cette logique de social impact. Et en fait, le raisonnement est très simple. Je veux le faire partager à tout le monde. C'est nous escomptons l'économie dans le budget du ménage générée par l'isolation. Et bien entendu, on retombe dans notre débat qu'on avait tout à l'heure avec mobilisation des biens de la mort, etc. C'est comment on amorce la pompe. Alors d'abord, vous me direz, c'est le métier d'un banquier. Non pas simplement d'inventer, mais d'amorcer la pompe. Mais avec cette question, qui est tout de même d'un minimum de sécurité. Là où je conforte, nous avons été les pionniers sur les quelques faibles activités de microcrédit personnel. Je ne parle pas de l'ADI et du microcrédit professionnel. On adosse l'ADI depuis l'origine, etc. Mais bon, il n'y a pas un risque gigantesque pour autant qu'on soit dans une vraie logique d'accompagnement. Le débat de fond autour de ça, bon, tant que ça reste sur des volumes faibles, on arrive encore à trouver des espaces. Alors, je vous dis, pour ceux d'entre vous que ça intéresserait d'ailleurs, je suis au comité stratégique, la partie économie sociale du PIA, des programmes d'avenir. Vous savez, les projets que Sarkozy avait lancés en ce temps. Et j'ai fait inscrire un sujet précarité énergétique. Parce que je pense que c'est important de travailler sur ces sujets. Bon, donc on arrivera à trouver quelques enveloppes pour faire ça, etc. Mais là encore, le problème c'est le jour où ça prend une tournure un peu significative, où est-ce qu'on va trouver l'argent? Donc on va rebuter sur cette question. Et in fine, la question que je veux qu'on se pose tous, c'est comment le travail rendu par votre association est rémunéré. Parce que c'est ça le sujet de fond. Pour qu'il y ait moins de risques, il faut qu'il y ait du suivi. Pour qu'il y ait du suivi, il faut que votre association soit rémunérée pour le travail qu'elle effectue. Et aujourd'hui, quand on prétend ça, la doctrine Cour des comptes pousse des hurlements. On dira, non, ces gens-là, c'est dans leur objet social que de faire cette activité bénévole. Alors là, eh bien, on reboucle la boucle. C'est-à-dire qu'on dit, ben non, soit vous continuez à être bénévole, et c'est bien, mais enfin, il y a un moment, vous allez peut-être vous lasser. Et donc, nous, qu'est-ce qui va se passer? C'est que on a un risque, que le risque augmente, parce qu'il n'y aura pas de suivi. Et donc, pour le moment, sur le microcrédit personnel, on a de la marge de manœuvre, parce qu'à l'époque où Borloo était ministre, il a doté auprès de la Caisse un fonds de garantie, le fameux fonds dont vous parlez, et sur lequel nous avons réussi à convaincre la Caisse des dépôts, qu'il fallait qu'on prenne un peu d'argent pour faire en sorte que l'engagement des associations soit pris en compte. Après, le débat du combien ça vaut, c'est encore un autre débat. Mais un de ces jours, il n'y aura plus de fric. Donc, on va bien retomber dans cette problématique. Mais c'est très compliqué à faire comprendre. Hein. Je viens de la fonction publique et j'ai grand respect. Mon père et ma mère étaient des impôts. Et je suis de 3 générations du secteur de la direction des impôts. Donc, j'ai beaucoup de respect pour cette noble institution. Mais notre environnement fonction publique est très pollué par l'idée, si c'est bénévole, nous ne dépensons pas un radis. Point barre. Voilà, ben c'est bien beau, mais enfin un jour, ça risque de nous emmener dans des situations compliquées.
Là, vous avez raison, il y a effectivement 2 niveaux d'accompagnement qui ont été pris en considération dans nos discussions avec l'Agence nationale de l'habitat. Et celle-ci a accepté l'année dernière, pour la première fois, une première enveloppe de 500 euros pour accompagner les ménages en difficulté moyenne. Elle le prend sur ses propres subventions. Donc, on a une réponse quand même qui fait
c'est
l'accompagnement.
Bien.
Et on est en train d'augmenter cet accompagnement. Et le résultat, c'est que les subventions de l'ANA, dans ce qu'on appelle l'opération Habiter Mieux, sont en train, depuis quelques semaines, d'exploser parce que, une fois que tout ça a été mis en place, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de ménages qui sont prêts à en bénéficier et prêts à investir. Mais là, je parle des ménages un peu au-dessus du microcrédit. Parce que c'est un petit peu là-dessus qu'on est arrivé en remontant le plafond de ressources.
Hervé Gouriot, je suis membre d'Entreprise et Progrès, mais en même temps, je vais peut-être faire appel plutôt à mes expériences américaines. Si j'entends bien, le trade-off entre l'inégalité et l'économie, il est diabolique, puisque le trade-off, il est perdant-perdant. L'économie ne fonctionne pas bien et l'inégalité persiste. Donc le trade-off ne fonctionne pas bien. Alors on a quand même une préférence de l'économie qui fonctionne bien en termes de services, enfin de production de soins aux États-Unis, c'est les grandes fondations hospitalières qui fonctionnent de façon efficace et qui peuvent accumuler des moyens et entretenir leur fonctionnement. Alors vous avez commencé, M. Bancel, tout à l'heure de façon très rafraîchissante, en nous rappelant l'origine de la mutualité et qu'elle ne procédait pas de l'État. Enfin, ce qui est quand même bien agréable en France, parce qu'il y a toujours la vieille rengaine en France où on dit que la nation procède de l'État. Enfin, ça, j'ai toujours pensé que c'était le pitch de l'ENA, mais pour une fois qu'il y a un ENA qui ne défend pas le pitch de l'ENA, c'est une bonne chose. Donc il y a eu effectivement une époque où les mutuelles étaient indépendantes, prospères, autonomes et ont pu se développer. Alors, corrigez-moi si je me trompe. Je vis sur l'idée que dans l'entre-deux-guerres, les mutuelles d'assurance sociale étaient très prospères et riches. Donc, alors, au fond, j'en viens à me demander si, quand même, sans aller à l'exemple américain auquel j'ai fait allusion, si on ne pourrait pas quand même améliorer concernant la situation en changeant, en essayant de donner des coups de canif dans le mythe de la non-lucrativité. Parce qu'enfin, quand même, je ne sais pas, je connais quelques scopes qui accumulent des réserves, quand même. Elles ont le droit d'accumuler des réserves dans certaines mesures, jusqu'à un certain point. Mais en moins, on peut quand même accumuler des réserves. Non ? Rien ne nous interdit de changer les choses. Et au fond, alors est-ce qu'il n'y a pas des ayatollahs de la non-lucrativité parmi vos sociétaires ? Est-ce que ce n'est pas eux qu'il faut convaincre en leur expliquant quand même que toute entreprise ne peut pas recourir toujours à une source extérieure de financement pour poursuivre son activité et se développer raisonnablement ?
Juste une question avant. Quelle était la source de la prospérité des mutuelles à la grande époque ?
Ah ben c'était leur activité d'assurance sociale. Mais parce que dans l'entre-deux-guerres, ben le poids de l'État-providence n'était pas celui-là. Donc ils occupaient un espace. Donc c'est intéressant la question que vous posez. Il y en a deux pour moi. La première, c'est est-ce qu'on peut faire bouger les lignes ? Et c'est évidemment dans l'état des finances publiques que nous avons, c'est une question incontournable. Sauf que, comme toujours, en théorie, c'est beaucoup plus facile de gérer cette question quand le gâteau s'élargit que quand le gâteau se restreint. Et que la question clé, qui est vraiment une question complètement politique, celle-là, arrêtez de se raconter des salades, c'est il ne va plus y avoir assez de ressources publiques, il va falloir arbitrer. Que croyez-vous qu'il se passera lorsque la classe politique, à l'échelon local, à l'échelon national devra arbitrer entre les fonctionnaires et les subventions aux associations. J'ai pas besoin de faire lever la main. Donc ça, je crains la réponse. Deuxième point par rapport à ce que vous dites, alors là je veux pas trop longuement développer, mais il y a des choses qui sont intéressantes à relever. J'ai eu l'occasion d'intervenir le dernier colloque de Cerisy organisé par Jean-Baptiste de Foucault cette année. C'était sur l'argent. Et il m'avait demandé d'intervenir sur l'argent et l'économie sociale. Et donc j'avais intitulé ma conférence sur économie sociale, des biens de main morte aux biens communs. Et comme j'aime bien m'astreindre à des travaux, je suis allé travailler dans l'encyclopédie de Diderot et surtout dans les débats de l'Assemblée constituante sur la nationalisation des biens du clergé. Et j'ai découvert qu'en fait, fondamentalement, même la loi de 1901 et post-séparation de l'Église et de l'État, les associations, il est resté la vieille tradition anti-fondation qui était portée par l'article de Turgot dans l'encyclopédie sur les fondations, mais qui est un tir au vitriol sur les fondations, parce que c'est des biens de main morte, etc. Dans le droit français, les associations ne sont pas des légitimes propriétaires. Là-dessus, pour ceux d'entre vous que ça intéresserait, il y a un livre anglais qui a été traduit aux belles lettres il y a un an sur une étude historique et comparative du droit de propriété comparé entre autres France, États-Unis. La France est un des seuls pays au monde qui a fait du droit de propriété un droit de l'homme. C'est le fameux article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et citoyen de 1789. Et c'est un point important parce que c'est un droit sacralisé pour l'individu. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans des jurisprudences récentes du Conseil constitutionnel, à travers la liberté d'entreprendre, on l'a étendu aux personnes morales. Mais jusqu'à présent, les associations ne sont pas encore considérées comme des propriétaires légitimes. Et l'exemple typique, c'est qu'une association gestionnaire d'un établissement quelconque, qui a vécu sur des subventions, si elle fait faillite, en théorie, c'est le financeur qui redevient propriétaire des biens. Et donc, ce que vous dites, ça renvoie à est-ce que demain, nous allons faire évoluer notre état fondamental du droit, parce que quand on parle de la Déclaration des droits de l'homme, etc., enfin bon, on est déjà sur du vraiment du rock là. Est-ce qu'on va faire basculer les associations dans le champ entrepreneurial d'une certaine façon? On va voir les fils qui pourraient tirer. C'est pour ça qu'il est aussi très intéressant de voir tout ce que ce concept de social entrepreneurship, d'entrepreneuriat social, vient percuter dans nos fondamentaux français. Et c'est là aussi où je renvoie, pour ceux d'entre vous que ça intéresse, à un très intéressant séminaire auquel je ne pourrais pas être, le lundi 16 décembre, au Bernardin, organisé par Armand Achuel de l'École des Mines, justement sur refonder l'entreprise, et qui essaye d'importer en France le concept de ce qu'il a appelé de société à objet social étendu ou élargi. Parce que ça renvoie fondamentalement le problème de l'objet social d'une entreprise et l'abus de bien social au concept de droit de propriété. Est-ce qu'à la fin, les seuls légitimes dans une entreprise sont les actionnaires, puisque c'est ça qui fonde le droit de propriété, qui fonde toute la logique sur l'abus de bien social, etc. Et donc, je pense que, au-delà des débats qu'on a eus sur est-ce que c'est dangereux du point de vue financier, quel débat on va avoir entre efficacité versus égalité, c'est ça que je voulais échanger avec vous. Je pense que cette immersion, je le disais souvent à mes collègues du monde mutualiste quand j'ai fait la transposition des directives européennes d'assurance dans le code de la mutualité. Ils voulaient faire une transposition à minima. Et je leur ai dit, non, il faut qu'on réécrive tout le code de la mutualité, non pas pour remettre en cause les principes, mais pour bien... Parce que je leur disais, quand on met du vin jeune dans des vieilles outres, elles pètent. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, c'est ça la même question qui nous est posée aujourd'hui à travers cette percussion, cette météorite du concept d'entreprise, d'entrepreneuriat social ou d'entreprise sociale. Et ça nous emmène à nous reposer des questions sur nos fondamentaux souvent très implicites de ce qu'est qu'une association, comment elle fonctionne, est-ce qu'elle ne peut être vue que comme une entreprise, ou est-ce que c'est pas peut-être la forme parfaite de l'entreprise à objet social étendu que Armand Achuel est en train d'essayer de faire émerger. Enfin, voilà, c'était une des hypothèses que je voulais formuler devant vous.
Philippe Petit, je travaille dans la presse. Juste deux précisions, mais c'est un peu général. Oui, la première sur l'Europe. Dans le domaine du droit social, on voit à peu près clairement, disons, ce qui s'est passé. En plus, là, récemment, on revisite un peu tous les arrêts de la Commission européenne, notamment l'arrêt Viking et l'arrêt Laval. Mais je voudrais savoir comment ça s'articule. Il y a l'idée que certains, justement, qui se sont interrogés sur la manière dont le droit social pouvait être entamé, français, le droit social français, par la gouvernance, par les nombres, hein, par aussi la manière dont on considère la politique budgétaire européenne. Donc, comment vous articulez, disons, cette question-là? Donc, quel est le rôle de la Commission européenne? Quel est son impact? Quels sont ses effets dans votre secteur? Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxième chose, vous avez fait allusion, c'est très à la mode dans le domaine Comité national d'éthique, tout ce qui relève du soin, du care. Vous avez dit, à propos de la sécurité sociale, aux États-Unis, ils n'ont pas la sécurité sociale et c'est pour ça qu'ils ont le care. Maintenant, on a le soin en France. Si vous allez dans les hôpitaux, tout ce qui concerne les risques psychosociaux, tout, etc. Je veux dire, le care, il est aussi en France. Donc, bon, voilà, je vous laisse l'éclaircissement.
Bon, sur la dimension européenne, c'est ce que j'ai évoqué. C'est-à-dire que, oui, les nouvelles étapes de la construction d'un marché unique, et bon, j'ai donné l'illustration à travers la directive Bolkestein, viennent percuter notre vision, mais qui est peut-être d'abord une vision étatiste-colbertiste, plus qu'une vraie vision d'État-providence. Après tout, je ne vais pas prétendre qu'en Allemagne, ce n'est pas un État-providence. Attendez, c'est pas parce que c'est pas étatisé à la française, colbertiste à la française, que c'est pas un État-providence. Donc trop souvent en France, on a tendance à réduire l'idée d'État-providence, pour faire simple, à c'est l'État qui doit faire. Et on revient dans l'échange qu'on a eu tout à l'heure, efficacité, égalité, etc. Et bien sûr, je voudrais donner d'autres illustrations, c'est NHS, qui est un parfait modèle d'égalité et un parfait modèle d'inefficacité, enfin, globalement, je veux dire. Ça se régule par la file d'attente, puisque le modèle de prise en charge en matière de soins en Grande-Bretagne est un système monopolistique sur la partie hospitalisation, avec un médecin gatekeeper, un médecin référent, pour ne pas rendre le jargon français. Mais l'avantage, c'est que vous n'avez rien à payer. Enfin, vous, c'est pas comme en France où vous faites de l'avance ou par votre carte vitale, etc. Bon. Le problème, c'est que ben, c'est géré avec des prescriptions, etc. Et ben, voilà, après, il y a des cotations de votre risque et de votre machin, et on vous dit, ben, t'attendras 6 mois, machin. Bon. Ok. Donc, il faut tout de même, parce que, ayant travaillé longtemps à la mutualité, étant encore toujours président d'une mutuelle, et puis je rajoute, ma femme étant professeure de médecine à la PHP, je crains que pendant longtemps on s'est vanté d'avoir le meilleur des deux mondes. Je pense qu'aujourd'hui on a le pire des deux mondes, hein, en France. Il y a beaucoup de mythes encore, enfin ça a été rappelé d'une certaine façon, parce que on a du public avec des opérateurs qui ont le droit de faire du privé au public, dans le public, enfin bon, c'est même assez étrange. Bon. Donc voilà, ça c'est sur cet aspect du secteur public. Mais ça me permet de rebondir sur une question qui a été implicitement évoquée tout à l'heure, qui est un des sujets de débat. C'est est-ce que les associations gestionnaires ne sont-elles pas elles-mêmes des lieux de précarisation des collaborateurs, des salariés? Et l'exemple des services à la personne est très important. Je parle des vrais services à la personne, parce que on se pose des questions sur le modèle allemand avec les mini-jobs. Alors certes, en France, il y a un SMIC, mais au-delà de ça, ces emplois fragmentés en temps, etc., est-ce que c'est très différent du fameux modèle du travailleur pauvre de la caissière de chez Monoprix? Et donc, voilà, mais en même temps, si on veut que ça corresponde au maintien à domicile, comment on fait? Enfin, je veux dire, il faut aussi qu'on assume nos contradictions, hein. C'est-à-dire, si on ne veut pas institutionnaliser les gens parce que c'est trop cher, et puis là, on aura du personnel bon, qui fera des rotations par vacation de 8 heures ou je ne sais quoi, on dit, ben, oui, mais après, qui vont être ces assistances à la personne qui vont travailler 3 heures le matin, machin, qui vont retourner chez elles? Donc, voilà, il faut aussi faire des choix, des arbitrages. On ne peut pas avoir le meilleur des deux mondes. Donc voilà, c'est ça, moi, que je peux dire. Les mondes sont différents. les mondes sont différents d'une certaine façon. En même temps, on ne peut pas prétendre que les États-Unis ne sont pas un pays développé. Voilà. Après, la question, c'est quel pourcentage de pauvres, parce que c'est un des grands sujets que j'entendais là, puisqu'il y a eu aujourd'hui au Conseil économique, social et environnemental, il y avait une grande conférence, moi je n'ai pas pu y assister, mais sur le vivre ensemble. Et un des sujets, j'entendais ça à la radio là ce midi, c'est le développement de la pauvreté. Enfin, je veux dire, voilà, en Europe, il y a un développement de la pauvreté, y compris dans notre pays. Et donc, c'est là où je reboucle avec ma question du social et comment on va le financer. Comment ça se boucle à la fin. L'autre chose qui est même assez sidérante, mais d'une certaine façon, vous avez apporté la réponse, mais vous n'imaginez pas à quel point, aujourd'hui, volontairement ou involontairement, dans tous ces gens qui tournent autour du G8, de ce que la Commission est en train de faire en créant des fonds de social investment, etc. On fait rêver des chiffres de 1000 milliards de dollars, etc. Parce que nos amis américains, ils sont toujours égaux à eux-mêmes. Ils pensent que ça marche dans les autres pays du monde comme ça marche chez eux. Voilà, ils ont pris des chiffres, ils les ont... Bon. Mais je pense que c'est vous qui avez raison. Je ne suis pas sûr que tout ça prendra des tailles gigantesques. Voilà. Mais c'est le risque, hein, à trop vouloir croire que c'est pareil partout. Et puis je ne parle pas dans les pays en voie de développement, mais voire même en Italie ou ailleurs.
Hein. Si on prend les choses d'un peu loin, donc un défaut de l'économiste aussi, où il regarde de très près, en disant combien ça coûte, qui paye, etc. Ou alors d'un peu loin, dans les grands équilibres. Si il y a aujourd'hui des besoins insatisfaits dans les populations, prenons les pays riches, c'est pas la peine, qui peuvent l'être par des actions que j'ai qualifiées de type 1, c'est-à-dire simplement des inventions font que des banquiers privés d'un côté rencontrent des clients qu'ils n'arrivaient pas à rencontrer jusqu'à présent et qu'ils développent donc un crédit qui permet à ces gens-là de sortir de trappes de pauvreté. On reconnaît tout le discours. Bon, c'est très très bien, mais là, dans ce domaine, il y a des évolutions lentes depuis le microcrédit qui quand même date de presque 30 ans. Les monnaies locales, on a commencé aussi à en entendre parler il y a 30 ans. Il n'y a pas énormément de nouveaux. Bon, ça se développe lentement, on fait des erreurs, on comprend quel type de garantie il faut pouvoir se donner, etc. etc. Bon. Ensuite, dans le financement par l'État d'un certain nombre de biens et services, il ne faut pas sans arrêt mélanger deux problèmes. Un, l'affirmation, de toute façon, l'État a de moins en moins d'argent, donc on en aura de moins en moins. Et puis, il a de moins en moins d'argent, donc il va bien falloir que ça soit financé par autre chose. Parce que pourquoi ce n'est pas déjà financé par autre chose, si ça peut l'être? Ou est-ce qu'on est uniquement dans le fantasme qui est que si l'État ne le fait pas lui-même, le privé, avec le même argent, va en faire deux ou trois fois plus? Voilà, soyons sérieux. Admettons que, et encore une fois, il faut regarder de très près, admettons que l'État soit moins efficace que le privé. C'est-à-dire qu'il rend des services avec plus de personnel, et un personnel qui est moins harassé, qui travaille moins, ou qui est moins efficace. Moins, bon. Admettons ça. On doit pouvoir l'imaginer, le chiffrer, peut-être 10%, mettons 20%. Mais dans le meilleur des cas, on gagne ça, et rien de plus. Pas le double, pas le triple. Et si pendant ce temps-là, les dépenses de l'État, elles diminuent de 20%, ben voilà, on n'aura rien de plus. Il y a derrière tout ça, malgré tout, une question de fond qui est celle de la répartition, finalement, de la consommation entre biens pouvant être produits avec toutes les difficultés d'évaluation, etc., par des entreprises à capitaux privés, des associations qui, comme on l'a dit et redit, ont besoin d'accumuler, mais enfin bon, il leur suffit de... Il y a ceux qui ont besoin d'un plancher de rémunération et ceux qui veulent la rémunération maximum. C'est ça un peu la différence. Bon. Pour en discuter longtemps, hein, parce que, après tout, pourquoi est-ce que les meilleures des associations non lucratives ne sont pas celles qui gagnent le plus d'argent? Il vaudrait mieux, parce que comme ça, elles pourraient se développer. C'est les meilleures qui se développeraient, alors que là, tout le monde est au même niveau. Bon. Mais la question de fond, elle est quelle est la part entre ces biens, parce qu'ils sont évaluables ou mesurables, peuvent faire l'objet d'une distribution à travers des mécanismes de marché, de pseudo-marché, et ceux qui sont de la nature du bien public et qui ne peuvent tout simplement pas. Voilà. Et qui ne peuvent pas être produits par autre chose que l'État, sauf à les transformer à des biens privés. Donc en vérité, il y a derrière tout ça un mécanisme de marchandisation, quoi qu'on fasse, et avec les inégalités impliquées. Voilà.
Il y a une question qui me fait turlupiner, c'est l'argent qui dort. Donc on a dit l'argent de main morte, mais il y a beaucoup d'argent qui dort, y compris chez les riches. Et la question qui se pose, c'est pourquoi aux États-Unis on peut voir des Bill Gates et d'autres qui mettent énormément d'argent pour des causes publiques, pourquoi c'est plus difficile en France? Est-ce que, au fond, ça revient à la question de l'utopie, est-ce qu'il n'y a pas des utopies qui peuvent faire aussi qu'on trouve, même avec des États impécunieux, de l'argent où il y en a?
Il dort pas.
Alors, comme disait Thierry Godin, l'argent de la charité est de toute façon, en général, on met facilement 5 fois moins dans l'argent de la charité que de l'argent de la peur. C'est sûr que le jour où les gens qui sont pauvres deviennent dangereux, on trouve de l'argent.
Dans les éléments de réponse que moi je donne, c'est d'abord, on a la chance d'être dans un pays riche. Il faut même rappeler quelques vérités, nous sommes dans un pays riche. Deuxièmement, la question c'est pas simplement l'argent qui dort. C'est quels sont des éléments potentiellement sources de richesse qu'il faudrait activer. C'est-à-dire que la question, ce n'est pas simplement de se poser la question quels sont les bas de laine des grands-mères qu'il faut vider. C'est aujourd'hui, où sont des espaces d'efficacité que nous ne potentialisons pas assez. J'ai volontairement pas voulu extrapoler sur un autre domaine qui me tient beaucoup à cœur. C'est le sujet de l'enseignement. Parce que vous doutez bien que les questions que je pose là, en les focalisant sur le social, vous avez des tas de questions à vous poser quand on l'élargit à la question de l'éducation. Tout à l'heure, ça a été évoqué, on parlait du primaire, du supérieur, etc. Je pense que, moi, la question que je veux partager avec vous, l'utopie, on a fait une rencontre du Crédit Coopératif à la Maison de la Mutualité autour de ce thème « Financer les utopies ». L'utopie, c'est ce qui fait avancer, c'est ce qui fait marcher. Et évidemment que je pense, mais là on est à la fin de l'échange, hein, c'est qu'est-ce que je pense qui me fait bouger, mais j'espère que c'est partagé par un certain nombre de membres, pas seulement de ma banque, mais du monde de l'économie sociale, etc. C'est ce degré d'exigence qui est mes enfants, c'est la génération d'après. Pourquoi est-ce que il faut se mobiliser? Bien sûr, c'est pour faire du social. Mais c'est pour que nos enfants continuent à pouvoir vivre dans un pays où on vit correctement, façon harmonieuse. Et donc, là-dessus, mobiliser les énergies, c'est pas simplement racketter les bas de laine. Enfin bon, c'est de trouver des projets collectifs. Alors, locaux ou plus larges. Et c'est pour ça que nous définissons notre banque comme la banque utile à ceux qui font bouger leur monde. Et comme je dis toujours, et je rajoute, et c'est un peu mon mot de la fin, si chacun d'entre nous fait bouger son monde, tous ensemble, on finira bien par faire bouger le monde. C'est en ce sens que je reste un vieux coopérateur invétéré. Voilà.
Merci.